Bonjour à tous, bienvenue dans Fire Escape. Aujourd'hui, je discute avec Hardis, que vous connaissez peut-être pour toutes les histoires qu'il raconte sur sa chaîne YouTube. Et dans ce podcast, il est venu nous raconter son histoire d'amour avec Los Angeles, qu'il a découvert pour la première fois il y a un peu plus de 10 ans, pour rencontrer d'autres YouTubeurs américains. Dans cet épisode, on aura l'occasion de nous replonger dans les débuts de YouTube pour comprendre son évolution, d'analyser les différences de mentalité entre Français et Américains, de casser les clichés sur la nourriture américaine, et bien sûr, d'écouter toutes les anecdotes assez uniques du temps que Hardis a passé à Los Angeles, à Las Vegas, ou encore au Texas. C'est parti. Merci Hardis d'avoir accepté mon invitation, bienvenue sur le podcast.
Avec plaisir, salut.
Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Ouais, carrément, moi je suis YouTuber et streamer, je raconte des histoires sur YouTube. Je suis sur YouTube depuis de très 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 longues années.
Et c'est
un plaisir de raconter un peu des histoires de personnalités incroyables, d'entreprises qui ont fait des trucs soit horribles, soit invraisemblables. Voilà, on prend des histoires incroyables qui se sont passées, dont vous ne connaissez pas forcément les détails, et on les raconte dans une vidéo d'une demi-heure, voire plus.
Trop bien. Donc aujourd'hui, comme tu le sais, on va parler des États-Unis. Je me rappelle que j'avais été assez surpris de voir que tu kiffais les États-Unis. Au début, c'était il y a très longtemps, je voyais tes premiers voyages à Los Angeles. Et du coup, je me demandais, elle te vient d'où cette attirance ?
En fait, cette attirance, c'est vraiment quand j'étais ado, pour moi, c'était les États-Unis, c'est un peu le pays de tous les possibles. Tu vois, la réflexion un peu de base, un peu nulle. Mais c'était, tu vois, moi, j'ai commencé, si tu veux, à m'intéresser à ce qui se passait sur le web et tout machin avec les tout débuts de YouTube, vraiment en 2008, tu vois. Et en 2008, ouais, c'était des mecs, tu vois, c'était Nigaiga, Mystery Guitar Man, Freddy Wong, etc. Toute la première vague de YouTubers US, iJustine aussi, où vraiment, j'étais là genre, ah ouais, waouh, on peut faire ça sur Internet, ils sont là, ils sont en indé. Tu vois, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien, tu vois. C'était vraiment juste, ça les intéressait, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et j'étais absolument fasciné par ça et je voulais absolument y aller dans ma tête un peu d'ado, un peu forcément les rencontrer machin et tout, mais même voir ce qui se passait là-bas, est-ce que je pouvais apprendre, est-ce que je pouvais prendre, tu vois, même pour ma vie perso, quoi. Et c'est ce qui s'est passé.
Mais ça, c'est un truc qui est super intéressant. Il y a plein de gens qui sont très attirés par les États-Unis à cause du cinéma, et toi t'as vraiment grandi plus sur Internet et sur la culture YouTube, j'ai l'impression.
Ouais, de ouf. Bah, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu la télé à la maison. Mes parents étaient complètement contre la télé. Donc, j'ai jamais eu de télé à la maison. Donc, j'ai aucune référence, machin et tout. Et on allait au cinéma de temps en temps, mais c'est pas un truc. J'ai pas vu beaucoup de films dans ma vie, tu vois. Donc, ouais. Si tu veux, j'ai beaucoup de. En fait, j'ai parfois l'impression un peu de vivre sur Planète 2, tu vois. Parce que en France, j'ai. Mais même aux États-Unis d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de refs de pop culture, de machin, de trucs télé. Moi je me suis vraiment développé un peu dans je me suis développé dans le métaverse en 2008, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que vraiment moi j'ai des refs de l'internet de 2008 à plus savoir comment foutre, mais le reste c'est vrai que c'était pas moi, quoi, tu vois.
Et mais justement, ça c'est marrant parce que au tout début de ta chaîne YouTube, tu parlais principalement de cinéma, ou en tout cas comment faire du cinéma, et ça te vient des youtubeurs américains.
Ouais, en fait, moi, vraiment, j'ai une référence, j'ai un truc vraiment qui m'a absolument stratosphérisé là-dessus. C'est Freddy Wong. C'était vraiment incroyable. Freddy Wong, c'est un YouTuber américain qui a arrêté maintenant, qui en gros faisait des petits courts-métrages d'action effets spéciaux de 2-3 minutes. Il y avait quasiment pas de dialogue. Et dans l'early internet, ça avait absolument cartonné. Et moi, ce truc-là, j'étais là genre, oh, incroyable, on peut faire des effets spéciaux comme au cinéma, mais sur YouTube et tout. Alors, quand tu les regardes avec des yeux d'aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, ils ont pas tous bien vieilli, tu vois. Mais pour l'époque, c'était absolument phénoménal. Tout le monde en parlait. C'était à l'époque, il n'y avait pas forcément Reddit, mais il y avait Dig déjà. Ouais. C'est très très vieux ça, mais il y avait Dig. Oui, c'était en homepage de Dig dès qu'ils postaient de nouvelles vidéos. C'était incroyable et tout. Et ouais, ce truc-là, cet amour pour ces trucs-là, ça m'est venu de l'époque Freddy Wong.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que sur YouTube français, il y avait un espèce un peu comme un certain anti-américanisme. Nous, on veut faire notre propre truc, on a nos propres formats, etc. Même si YouTube, c'est une plateforme américaine. Est-ce que tu n'avais pas l'impression d'être un peu à contre-courant ou un peu de pas forcément suivre le mouvement de ce qui se faisait en France?
Ouais, peut-être un peu, mais je ne l'avais pas identifié à l'époque. Je n'avais pas ce niveau d'analyse, tu vois. Ouais. Moi, je faisais mes petits trucs et la réflexion s'arrêtait là, tu vois. Okay. Après, oui, parce que la France a un côté très auteur. En fait, pour moi, ça vient du rapport au livre en France, même si ça peut sembler que ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, on est très auteur, donc on a besoin de faire des courts-métrages où on écrit des pages et des pages de dialogue, et on raconte des trucs et au machin et au truc. On a ce côté, on a besoin de se sentir artiste Alors que les Américains sont aussi des artistes, hein, mais on a une façon, on a un rapport à l'art et au film qui est radicalement différent. Donc ça m'étonnerait pas, tu vois. J'ai pas ressenti ça à l'époque, mais ça m'étonnerait pas.
Et donc du coup, c'est ça qui t'a attiré vers Los Angeles. Je sais que tu y as été pas mal de fois. C'est quand la première fois que tu as voyagé aux États-Unis ?
C'était il y a fort longtemps. C'était en l'an de grâce 2013 de mémoire.
Ok. Et encore une fois, c'était YouTube qui t'avait attiré et t'y avais principalement été pour rencontrer des créateurs.
Ouais, c'est ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, moi, on est en 2013. 2013, je vis de deux choses. Un job alimentaire à Auchan, où vraiment je remplis des rayons au supermarché, tu vois. Et quelques petites missions freelance en montage vidéo par-ci par-là. Et j'essayais petit à petit que j'ai de plus en plus de missions freelance pour arrêter de faire mon boulot alimentaire, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, je me dis quand même, j'ai grave envie d'y aller, de voir ce qui se passe, tu vois, dans le pays des possibles, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là, hein, faut que je l'assume, même si ça peut paraître un peu ridicule, mais voilà quoi. Et en gros, moi, à cette époque-là, je parlais sur un forum avec un gars qui avait monté sa boîte de production de films de mariage à Seattle. Okay. Je parlais beaucoup sur un forum avec ce mec-là. C'était un forum, en gros, pour les créateurs YouTube, tu vois. Ce mec-là, en fait, allait souvent à Los Angeles et il était copain avec Ren de Corridor Digital, qui est une autre chaîne YouTube qui faisait des petits courts-métrages action effets spéciaux avec Freddy Wong. Ils étaient dans le même bureau, en fait, même bâtiment. Ils avaient deux chaînes similaires. Et il m'a dit, écoute, viens, on va à Los Angeles, je te fais rencontrer les gars, et puis tant qu'à faire, on tourne des vidéos pour ta chaîne, pour ma chaîne, là-bas, on collabore, tu vois, tant qu'à faire, on se voit. Et moi, vraiment, sur un coup de tête total, je lui dis, vas-y, banco, j'économise pendant très longtemps de l'argent d'Auchan et de mes trucs freelance et tout, et je me paye un billet d'avion pour aller à Los Angeles à mes 18 ou 19 ans, un truc comme ça, pour aller rencontrer un gars que je ne connais pas, dans un pays où je suis jamais allé. et en me disant tout va bien se passer. Mais en fait, je m'étais dit, franchement, c'est une aventure. Et dans le pire des cas, le mec, il est pas là à l'aéroport. Et tant pis, je rebrouche chemin. Tu vois, je reste une semaine, je prends une chambre d'hôtel et puis basta. Tu vois, au pire du pire. Et bien non, finalement, le mec était là. Il m'a attendu à l'aéroport. Il était très sympa. On a passé un mois ensemble dans l'appart de ses potes qui sont devenus des potes à moi aussi à North Hollywood où on écrivait des idées de script, de vidéos, de machin, des trucs. Et c'est là où j'ai rencontré tout le monde. Et d'abord les équipes de Corridor, ensuite Freddy directement, et j'ai rencontré plein de monde via ce mec en fait.
Et t'as ressenti quoi quand t'as posé pied aux États-Unis pour la première fois, quand t'arrives à l'aéroport de Los Angeles ?
Ah, c'était très bizarre. C'était très bizarre parce que en fait les Américains ils ont beaucoup de contradictions. C'est le pays de la liberté, mais en même temps ils sont très 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 administratifs. Tu vois, ils ont ce côté un petit peu, ils ont ce côté très rigoureux et très froid, alors qu'ils sont super accueillants et super chouettes. Mais par contre, t'as pas intérêt à te planter sur le formulaire B36 à l'aéroport, tu vois. C'est très spécial comme façon d'être. Non, c'était très impressionnant, très impressionnant. Tout est grand, les gens se prennent au sérieux, tu sais, t'as l'impression d'être dans un pays, tu vois, d'Amérique du Sud, il y a 80 ans, avec les gens de l'immigration, ils ont des petites médailles sur leur costume, parfaitement repassées, et tu sens que voilà, ça déconne pas, tu vois, genre il y a pas ce côté un peu flic de campagne où le mec est là, genre ah salut José, ça va, tu vois, genre, c'est vraiment c'est la grande administration fédérale, tu vois, genre c'est quelque chose, tu vois, de qui a ce côté-là quand tu arrives à LA, et puis après tu prends le taxi et là c'est vraiment, mais c'est le trailer quand tu lances GTA, tu sais, avec tes rangs de taxi au début, quoi. C'est vraiment ça. Tu quittes LAX, t'arrives et tu vois les premiers trucs, les premiers grands panneaux. Le premier truc qui va choquer un Européen, et moi, c'est le premier truc qui m'est passé en tête, c'est quand tu descends de LAX, première fois aux États-Unis, et que tu vois un énorme panneau publicitaire d'affichage qui fait la publicité pour un avocat.
J'adore ça.
Et ben moi aussi, je trouve ça très rigolo. Mais en fait, quand t'as pas l'habitude, tu vois un avocat qui dit « Hey kid, did you break a leg in a car accident or something ?» Tu vois, genre hey, « Call 1-800-WRECK » ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, c'est un avocat qui est là, genre « Si t'as un accident de voiture, appelle-moi. » Et c'est des trucs comme ça, c'est des petits détails qui te marquent, tu vois.
Ouais. Et ce qui est marrant, c'est du coup, c'est tu vas là pour voir un gars que tu connais pas. Est-ce que tu penses que c'est l'époque qui fait que t'avais un petit peu moins peur, ou alors c'était au début des réseaux sociaux, donc tout semblait possible? Ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un truc qui sera encore possible dans le monde d'aujourd'hui?
Je pense que c'est encore possible parce qu'il faut avoir l'esprit d'aventure, c'est super important. Après, on va pas se leurrer, je vais pas faire semblant. Il y a aussi deux choses, l'époque, parce que c'était tout le début des réseaux sociaux et de ces trucs-là. Et donc, on n'avait pas forcément d'exemple de catastrophe, tu vois, en tout cas pas beaucoup. J'ai pas envie de balancer des poncifs, mais je suis un garçon, tu vois. Ouais. Honnêtement, une femme toute seule qui ferait la même chose aurait des considérations tout à fait différentes pour sa sécurité, et je suis forcément le premier à l'admettre, tu vois. Donc, ouais. Faut avouer aussi que le fait que je sois un mec, je me suis pas posé des questions horribles, tu vois. Parce que voilà, au pire, tu vois, j'avais économisé de l'argent, donc j'avais des sous un peu de côté. Si vraiment le mec, je le sentais pas, bah, j'aurais dit, bah non, désolé, je me barre, et puis je serais allé à un hôtel, tu vois. Donc, ouais. Je me sentais pas, voilà, je m'étais dit, même si c'est un traquenard, même s'il y a un problème, je saurais me retourner, tu vois.
Ok. Et il y a un autre truc aussi, c'est ton niveau d'anglais. Je sais qu'aujourd'hui, tu as un très bon niveau d'anglais. Comment est-ce que tu as appris? Et est-ce que ça a toujours été le cas?
Toujours été le cas, non. Mais au plus loin que je m'en souvienne, oui. Parce qu'en fait, moi, l'anglais, ça a toujours été une barrière absolue qu'il faut vite passer pour accéder à la connaissance du monde. Tu vois? Mm-hmm. Et donc, comme moi, j'avais envie de bouffer à peu près toute la connaissance possible et imaginale dans ce qui m'intéressait, fallait absolument que je sois très, très bon en anglais très jeune. Donc, j'ai appris très, très jeune. Et vraiment, c'était de l'habitude. C'était, tu vois, quand tu jouais à World of Warcraft en 2009, quand t'étais sur les premiers YouTubers, et quand tu voulais regarder, moi, je regardais beaucoup South Park aussi à l'époque. C'est aussi en partie comme ça que j'ai appris, tu vois. Tu apprends de manière itérative. Moi, je considère que j'ai appris l'anglais en début, milieu d'adolescence, tu vois, plutôt début d'ailleurs. J'ai appris l'anglais comme un bébé, un nouveau-né apprend sa première langue natale. C'est-à-dire que vraiment, je me suis plongé dedans. Et au début, je faisais semblant de comprendre. Et à force de faire semblant de comprendre, tu captes des mots, du slang, des intonations, des trucs. Mais du coup, ça a eu une conséquence qui est très, très drôle. Et dont je crois que j'ai jamais parlé de ça. C'est que du coup, mes amis américains, j'ai un accent américain traditionnel. Donc en gros, les gens savent pas que je suis européen quand je parle. Ouais. Sauf si je force un petit peu l'accent, tu vois. Mais par contre, comme j'ai appris l'anglais avec des gens qui venaient de tous les horizons des États-Unis, j'ai un accent qui vient de tous les États. Genre, je peux commencer une phrase avec un accent du Tennessee et finir avec un Californien, tu vois. C'est-à-dire que mon accent se dans tous les sens et personne ne sait d'où je viens, tu vois.
Ok. Et donc, je pense que ça a dû beaucoup t'aider quand t'es arrivé là-bas.
Ouais, bah oui, parce que t'es facilement intégré. C'est-à-dire que t'es l'un des leurs très rapidement. Après, bon, tu racontes toujours d'où tu viens et tout, mais la première approche est extrêmement facile. Et puis surtout, même au-delà de l'interaction avec les autres, le fait de vraiment maîtriser la langue, ça fait que t'as pas peur d'aller vers l'autre aussi, tu vois.
Ouais.
Parce que quand tu maîtrises pas la langue, t'as toujours peur, même quand tu as parlé avec quelqu'un, t'es là genre, ah putain, comment on dit ça déjà? Et puis le mec en face de toi, il parle vite, et peut-être qu'il est en train de faire autre chose, tu vois, c'est con, mais si t'es en train de parler à quelqu'un et qu'il est en train de ranger du matériel, tu sais, sa tête se tourne dans tous les sens, t'entends pas bien tous les mots, tu paniques. Donc, le fait de maîtriser la langue, forcément, ça change énormément de choses, quoi.
J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu cette période au début des années 2010 où t'es avec des youtubeurs américains, on est au tout début de l'industrie. À quoi ça ressemblait et comment c'était d'être à Los Angeles avec ces gens-là?
C'était incroyable, mec. C'était vraiment genre le cercle qui se complète, tu vois.
Ouais.
Et en gros, je peux te dire exactement comment ça s'est passé. Donc, moi, j'arrive à Los Angeles avec donc ce mec qui s'appelait Micah, qui avait sa boîte à Seattle. Il vient me chercher à l'aéroport. On va chez Pote, chez qui je vais rester pendant un mois. On sort, tu vois, on va faire deux trois trucs. Je sais que le premier truc qu'on a fait, c'était parce que évidemment c'est Los Angeles, donc la nourriture mexicaine c'est partout, tu vois. Et c'est pas de la nourriture mexicaine, enfin tu vois, c'est vraiment très très bien, c'est fait par des gens qui viennent de là-bas et tout machin, donc c'est vraiment un très très haut niveau, tu vois. Ouais. Donc on va dans un truc mexicain qui était à côté de chez eux à North Hollywood. Et tu vois, je me rappelle vraiment de rentrer à la maison après avoir cherché des trucs qui sont emballés dans du styrofoam, tu vois, donc vraiment des trucs genre très très américains, tu vois.
Ouais.
Et tu dis, ah ouais, putain, ça ressemble à ça, quoi. La vache, tout est énorme, tout le monde est sympa. Alors il y a un effet touriste au début où tu dis, ouais, tout le monde est génial, et puis après tu as deux trois mauvaises expériences, tu te dis, ouais, bon, pas tout le monde, mais quand même l'américain moyen est sympa. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs que les gens disent que, tu sais, les Américains sont faux culs parce qu'ils sont sympas avec tout le monde. C'est pas faux. Il y a un petit côté de vrai là-dessus, surtout en Californie. Mais je préfère des gens qui sont gentils par défaut, même s'ils le pensent pas forcément tout le temps, que des gens juste qui font la gueule par défaut et qui sont sympas quand tu les connais, tu vois. Genre, l'état par défaut de l'Américain, c'est d'être heureux de vivre. Ouais. c'est assez spécial, mais ça fait tellement du bien, tu vois.
Ouais.
C'est vraiment humainement incroyable. Et puis après, du coup, donc, au bout de quelques jours, je crois que c'était une semaine et demie, tu vois, il me dit, ah bah tiens, il y a Ren qui est dispo. Viens, on va se capter, on va bouffer ensemble. Et on est allé juste en bas de Universal Studios à un petit restaurant qui existe peut-être encore, qui s'appelle Sun Café, Et Sun Café, du coup, c'était un petit resto à côté d'Universal Studios. Et là, je vois Ren, le mec qui était dans toutes les vidéos que je regardais depuis depuis toujours, tu vois. Et en fait, ce qui était super incroyable, c'est que je me suis rendu compte à quel point que les gens qui étaient en face de moi étaient les mêmes galériens que moi, avec quelques années de plus de bouteilles. C'est-à-dire que vraiment tout était fait. Ren, quelques années auparavant, lui, il habitait à Portland et c'était Nico de Corridor Digital qui lui avait proposé un job pour être caméraman de la chaîne Making of de Corridor Digital. Et ouais. il avait dormi dans sa voiture au début quand il avait déménagé en Californie parce qu'il n'avait pas de sous. Il avait déménagé sur un coup de tête pour prendre ce job, dormi dans sa voiture et tout. Et là, il était depuis quelques années à Los Angeles avec Sam et Nico depuis mes 2 ans, tu vois, c'est très récent. Et je me rends compte de ça et je me dis, ouais, putain, ils sont en train de construire le monde de demain, les mecs, tu vois, avec 3,50 francs.
Ouais. C'est justement ce dont je voulais parler parce que ça veut pas dire que c'était mieux avant, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, le champ des possibles était ouvert, qu'il y avait un petit côté des merdes, les vidéos étaient moins produites, on faisait avec ce qu'on avait, et j'aimais bien ce petit côté-là. Comment tu décrirais cette période de YouTube?
En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a une facilité, et cette facilité, c'est de dire « c'était mieux avant », ou tu sais, de dire « ah, à l'époque, les gens, ils faisaient ça pour le cœur, machin et tout ». Mais pour moi, c'est un effet de, tu sais, les Américains diraient « rose tinted glasses », tu vois. C'est un effet de « on regarde le passé avec les yeux du présent et on projette les ressentiments qu'on a aujourd'hui sur le passé ». La réalité, c'est qu'en fait, les gens ne faisaient pas les choses avec le cœur plus avant qu'aujourd'hui. Les gens faisaient les choses avec rien. Parce qu'en fait, comme tu ne pouvais pas t'imaginer l'industrie que ça allait devenir, mais tu pensais pas à ça, tu pensais à rien en fait. C'est-à-dire que tu applaudais, tu faisais tes trucs, tes machins. Certains disaient « ah, ça peut devenir une carrière » parce qu'il y avait quand même eu l'exemple aux États-Unis de Fred qui faisait la première grosse chaîne à taper 1 million d'abonnés et à être vraiment une grosse star, machin et tout. Mais il y avait, en fait, c'est pas que genre les gens ne pensaient pas à ça et tout, c'est qu'ils s'imaginaient même pas que c'était possible. Ouais. Et en fait… il y avait c'est pas forcément une insouciance mais une inconscience totale de ce qui était en train de se faire à l'époque. Moi je sais que j'en étais pas conscient par exemple, tu vois.
OK. À aucun moment tu te dis que un jour ça serait ton métier?
Bah au bout de 1 ou 2 ans, je me dis bon quand même, je vois les exemples américains, je vois la direction que ça prend. Je sais que ça peut être un métier. Après, est-ce que ça va être mon métier à moi? Est-ce que je vais réussir? Parce que c'est très difficile. Ça je m'en suis pas rendu compte au début, non, ça c'est clair.
Et est-ce que tu penses qu'à l'époque c'était plus facile de se lancer du coup?
Non, moi je pense que c'est l'inverse. Okay. Je suis partie des gens qui c'est totalement. Je pense que c'est aujourd'hui plus facile de réussir sur YouTube que ça ne l'a été quand je me suis lancé.
Ok.
Pour une raison qui est très simple, c'est que les algorithmes ont beaucoup changé. Il y avait quasiment pas d'algorithme de recommandation à l'époque. Il y avait un algo de recommandation, mais tout était énormément basé sur les abonnements. Ce qui fait que, et là je sors ma casquette de marketeur d'internet, c'était des façons de fonctionner qui sont très kingmaker, des faiseurs de rois en français. Dans le sens où si quelqu'un a beaucoup d'abonnés, eh ben il va continuer à avoir beaucoup d'abonnés parce qu'il a beaucoup d'abonnés.
Ouais, je vois.
Tu vois, la growth amène la growth, tu vois. Or, aujourd'hui, on est passé sur un raisonnement qui est tout à fait différent, qui est basé sur des algorithmes de recommandation où YouTube s'est dit, bah, pour que YouTube tienne dans la durée et grandisse, c'est complètement débile que si quelqu'un a réussi une fois, alors il se fasse plus jamais détrôner et que on ne recommande que des gens qui font la même chose que lui. Ça a pas de sens. Ouais. Il faut une diversité de contenu beaucoup plus large. Et donc sont venus les algos de recommandation et qui, sans les expliquer ici parce que c'est très long, mais parce que c'est mon métier de comprendre les algos de recommandation, mais sans aller dans le détail, en gros leur travail, c'est de prendre du contenu quel qu'il soit, même de quelqu'un qui vient de créer une chaîne YouTube, et de le mettre en face d'une audience qui va passer du temps à le regarder. Et donc, tu peux tout à fait lancer une chaîne aujourd'hui et prendre 100 000 abonnés en une semaine. C'est complètement possible. En revanche, il faut savoir beaucoup se remettre en question. C'est le plus gros skill. Il faut être capable de se dire, même si ta vidéo est bien, imagine qu'elle soit complètement nulle, qu'est-ce que je changerais, tu vois? Et de vraiment tout le temps se remettre en question. Mais par contre, je persiste et signe, même si c'est pas forcément une opinion populaire, je pense que ça représente sincèrement la réalité. C'est plus facile aujourd'hui que ça ne l'a été avant.
Ouais. Non, ça, je comprends. Et c'est pour ça qu'il y en a que quelques-uns qui ont percé avant, justement. Parce que l'époque dont on parle, il y avait 2-3 personnes qui étaient hyper connues, mais les autres, on sait pas
si c'est
devenus.
Avant, c'était du kingmaker, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, si tu veux un exemple de cet ancien système qui fonctionne encore, tu peux regarder Twitch. Quand tu vas sur Twitch, grosso modo, les gens sont classés par nombre de viewers.
Ouais.
Et donc, Twitch a ce qu'on appelle un directory. Donc, Twitch, c'est un site où on peut regarder des gens qui font du streaming en live, du live. Tu as des catégories, donc par jeu vidéo, des streamers League of Legends, des streamers, moi, je suis streamer Just Chatting. parce que je parle, je lis des articles, je fais de la revue de presse. Mm-hmm. Et donc, quand tu vas dans la catégorie, tu vois les gens classés par ordre de viewers. Et donc, la taille amène la taille. Parce que si tu as 1000 viewers et que tu es le numéro 1 de la catégorie, bah, tu es mis en premier en avant. Et donc ça, c'est un système qu'on appelle Kingmaker, contrairement à un système de recommandation à la YouTube. Quoi.
Ouais. J'ai l'impression que TikTok est un peu un petit mélange des deux, où il y a aussi ces gens qui font des trucs avec leur téléphone, un peu en mode, ils font avec rien. Mais il y a aussi le système d'algorithme qui va les pousser en avant. Est-ce que ça te rappelle un peu cette époque ou pas du tout?
Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est le meilleur exemple qui est de dire, c'est pas que les gens aujourd'hui, ils veulent regarder des vidéos produites et ils aiment pas les trucs faits à l'arrache. Il y a différents types de gens et ces gens veulent regarder deux choses différentes. Et parfois, même les mêmes gens veulent regarder les deux types de contenus. Mmh. C'est aussi pour ça que, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui disent, ah, la méta de YouTube, elle a changé, la méta. En fait, aujourd'hui, il y a pas de méta. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'on est passé à une ère post-méta où, en fait, comme il y a différentes démographiques, sur YouTube et que le site est énorme, différentes démographiques répondent positivement ou négativement à différents contenus. Et c'est pour ça que sur la même plateforme, tu vas avoir des jeux faits par Squeezie qui ont coûté 150 000 euros et des vidéos de pêche de 2h30, mais qui vont avoir également du succès dans leur niche. Tu vois. Parce que tout existe. Donc, il n'y a pas une méta. C'est fini, ce truc-là.
Non, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est hyper intéressant. Et bah, du coup, pour revenir un petit peu à cette époque-là, donc, je sais que tu as été souvent à Los Angeles pour travailler avec Corridor Digital et avec ses autres créateurs. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, du coup, Los Angeles pour toi? Est-ce que c'est principalement un endroit que tu associes au travail ou plus forcément aujourd'hui?
Non, plus forcément aujourd'hui parce que j'ai jamais travaillé aux États-Unis parce que j'avais pas le droit. J'ai filé 2-3 coups de main parce que bon, tout le monde le fait, tu vois. Ouais. Typiquement, juste après le déjeuner avec Ren à Sun Café. En fait, eux, ils avaient souvent besoin de gens pour jouer dans les vidéos, tu sais, des personnages secondaires et tout. Donc, il y a des vidéos de Corridor Digital où je suis dans la vidéo, tu vois, par exemple. Et ça, pareil, c'était très rigolo, tu vois. Donc, il m'a dit, bah, écoute, si t'es dispo demain à 5h du matin, on tourne une vidéo. Et c'est la toute première vidéo où tu me vois avec Corridor. C'était vraiment, je venais de débarquer, quoi. Et en gros, ouais, ce que ça présente pour moi aujourd'hui, c'est pas forcément du travail parce que j'y vais pas pour travailler. J'y vais parce que j'ai un gros groupe de potes, qu'il y a des gens que je veux rencontrer pour le boulot. Mais en fait, c'est un endroit qui est, alors je vais utiliser un mot qui est très dévalué et qui est très chiant, mais c'est un endroit qui est très, très inspirant. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, je vais à Los Angeles parce que je vais voir des gens qui sont en train de complètement changer le monde, tu vois, qui font des trucs, qui poussent les limites, qui sont des gens fascinants, tu vois. Et puis, j'y vais parce que je vais voir des potes et c'est des gens qui ont une autre forme de gentillesse, tu vois. Il n'y a pas que les Américains qui sont gentils dans le monde, mais qui ont une forme d'humanité qui est différente, d'une expérience différente. Moi, c'est vraiment... Il y a un effet cocon Los Angeles pour moi. C'est vraiment ma maison 2, tu vois. Je commence à... Maintenant, ça fait 10 ans que j'y vais, tous les ans. Au début, j'y allais 3 mois par an. Et puis après, en devenant plus adulte, responsabilité en France, j'ai une copine, tout ça. Donc, j'y vais 1 mois par an. C'est déjà beaucoup, tu vois, quand même. C'est cocon. C'est-à-dire que je connais la ville par cœur. Je connais les petits trucs, les petits restaurants un peu sympas, un peu cachés, les petites activités chouettes. C'est ma deuxième maison, quoi.
Ouais. Et comment tu décrirais cette mentalité américaine qui t'inspire tant? Cette gentillesse ou cette mentalité en rapport avec le travail?
C'est extrêmement compliqué et je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus et j'ai limite envie de te retourner la question et peut-être que ça me ferait évoluer sur le sujet d'ailleurs. En fait, il y a une espèce de... les Américains, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ont une énergie vitale incroyable.
Ouais.
C'est-à-dire que l'Américain peut être dans une situation de merde. Il peut être dans une situation où il a perdu son emploi, où il va se faire évecter de son appartement demain parce qu'il ne veut pas payer le loyer. Parce qu'il peut être dans la merde et il va dire « bah c'est pas grave, je vais trouver quelque chose. Écoute, c'est comme ça, voilà, c'est un challenge. Ah là là, on galère en ce moment. Hein. » Tu vois ?
Ouais, totalement.
Ils ont une capacité à aimer. Je sors des phrases de philosophe nul, je suis désolé. Hein.
Vas-y.
J'essaie de mettre des mots sur un truc sur lequel je n'ai jamais mis de mots. Mais ils ont une capacité à aimer être, tu vois ?
Ouais.
Que je n'ai vu nulle part ailleurs. Ils adorent vivre. Tu vois. Et donc, il y a ce côté-là. Et ils ont une capacité, en fait, si tu veux, à... je ne sais pas si c'est leur système scolaire qui est comme ça ou le système administratif qui est moins punissant que celui de la France, mais ils ont une capacité à penser en dehors du fait établi qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une capacité à voir le monde tel qu'il est et à imaginer genre bah mais si on faisait comme ça ou si on essayait ça, ah je suis sûr que ça va marcher, et à s'enquiquiner alors que tout autour d'eux leur dit non c'est complètement con, ça marchera jamais. Alors que à s'entêter tu vois, la raison devrait leur dire non c'est comme ça qu'on fait depuis toujours, ça marche très bien, il y a des industries à des milliards de dollars qui fonctionnent comme ça, c'est pas toi avec ton idée à la con qui va changer quoi que ce soit. Et pourtant parfois si. Et ça, c'est une capacité que je trouve spécialement américaine. Mais je te retourne la question, du coup, ça m'intéresse.
C'est un peu la même chose. Il y a cette idée. Après, moi, le souci, c'est que j'ai pas vu beaucoup de choses en dehors de New York. Et New York, c'est un peu un monde en dehors des États-Unis. Mais
Los Angeles, c'est pareil. Hein.
Ouais, je pense que c'est assez similaire. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est la culture du hustling, comme ils disent. Où vraiment tout le monde a son petit objectif et tout le monde va travailler pour ça, ou va centrer sa vie autour de cet objectif-là et prendre la vie comme elle vient et faire avec. Et donc c'est assez proche de ce que tu dis, et c'est pareil, c'est très difficile de mettre des mots dessus, je pense. Mais ouais, il y a un côté où quand tu vas rencontrer des gens, les gens vont parler de ce qu'ils font, ils vont s'intéresser à ce que tu fais. Et effectivement, contrairement à la France, tu sens qu'il y a un petit intérêt derrière la sympathie parfois, mais ça peut mener à des belles expériences et des belles aventures aussi.
Je peux donner un exemple,
bien sûr.
Je pense illustre ce qu'on essaye de dire. C'est que, imagine, tu vois quelqu'un qui, une jeune femme qui essaye de devenir danseuse ou qui veut être TikTokeuse, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, c'est la version moderne, tu vois, parce que TikTok, ça vient des danses, mais c'est plus le cas aujourd'hui, et c'est quand même beaucoup ça. Et tu vois, qui va faire des TikTok où elle danse dans la rue en public face à plein de monde, tu vois.
Ouais.
La réaction française de base, bon, les gens dans la rue vont l'ignorer, et ses amis, son entourage va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es bizarre, t'es cringe, oh là là, elle est chelou celle-là, elle est bizarre, tu vois.
Exactement.
Et aux États-Unis, elle est là genre, ah, you go girl, tu vois, tu fais ce que t'as à faire, c'est mm-hmm. ok, t'as envie de percer là-dedans, bah écoute, c'est comme ça, ça marche pas encore, mais écoute, on espère que ça va marcher.
Ouais.
Tu vois?
Ouais, exactement.
Et ça, c'est radicalement différent, tu vois.
Il y a une certaine absence de jugement qui va des choses très simples sur comment tu vas t'habiller, par exemple, et puis aller faire des choses beaucoup plus poussées sur ton choix de vie, tout simplement. Tu peux dire, je veux être acteur à Hollywood et être dans le prochain Marvel, et les gens vont dire, ah, ok, cool. Et ça, bon, c'est...
Oui, à la limite, ils vont me dire, oula, bah, tu sais que c'est galère et tout, mais enfin, bonne chance, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais ouais.
On va quand même croire que c'est possible. Il y a quand même cette petite partie de toi qui dit, en fait, tout est possible. Ça n'a pas forcément arrivé, mais tu as le droit de rêver, en fait.
Et en fait, ouais, le droit de rêver, c'est un peu ça. Et ça peut paraître un petit peu naïf, ce qu'on est en train de dire aux gens qui écoutent, mais il faut se rendre compte que les Américains eux-mêmes ont conscience que c'est quasiment impossible.
Bien sûr.
Mais le fait d'avoir dans le cerveau cette petite étincelle où tu te forces à penser l'impossible, ça change la manière que tu as de voir la vie, en fait.
Mm-hmm.
Et ça rend la vie beaucoup plus heureuse, je trouve.
Je suis d'accord. Et du coup, c'est un truc que tu as sûrement pu voir en étant là-bas, mais les gens vont beaucoup plus vouloir aider s'ils peuvent. Et tu peux très bien envoyer un mail à quelqu'un que tu connais pas du tout aux États-Unis, qui est bien placé quelque part où tu veux aller, par exemple, et il peut te donner des conseils même s'il te connaît pas. C'est beaucoup plus facile de passer certaines barrières, je trouve.
Oui, et c'est d'autant plus paradoxal parce qu'on a une image des États-Unis très l'ultra-capitalisme, c'est des gens qui pensent qu'à leur gueule et tout machin, alors que ça n'a jamais été aussi facile de contacter des gens très très haut placés en leur envoyant un mail que des Américains, tu vois.
Exactement.
C'est impensable en Europe, ça. Impensable. C'est extrêmement facile de faire ça avec des Américains, tu vois.
Ouais.
Et oui, tu parlais de l'habillement, en fait, et ça m'intéressait quand tu parlais des fringues. Je n'ai jamais vu autant de millionnaires en tongs et en shorts dégueulasses qu'aux États-Unis.
Oui,
le millionnaire français, il a besoin pour sentir exister d'avoir sa belle montre, son beau truc, parce que sinon, même les gens dans son cercle vont dire, mais n'importe quoi, enfin, tu vois, t'es dégueulasse et tout. Il y a un jugement. Là, je parle des millionnaires, mais ça marche aussi pour les gens qui n'ont pas forcément de sous, tu vois.
Ouais.
Ça n'existe pas aux États-Unis. Bien sûr, t'as des gens qui vont flasher, qui vont aimer des trucs bling-bling. C'est aussi le pays du bling-bling, mais c'est pour ça que les États-Unis, c'est paradoxal. C'est aussi le pays du bling-bling et c'est aussi le pays du mec, tu vois, qui a lancé une franchise de dentiste et qui a 50 millions de dollars de net worth et qui se trimballe en tongs dégueulasses à Walmart, tu vois.
Ouais.
Il y a les deux.
C'est ça. Et c'est un peu cette idée que tu peux choisir le parcours que tu veux et ça va être accepté. Et c'est ça qui est très cool.
Bah ouais. Sans vouloir aller dans des trucs trop politiques et tout machin, moi c'est aussi un truc qui m'a frappé parce que ce serait totalement impensable en France. C'est la première fois aux États-Unis quand j'y suis allé où j'ai vu de manière tout à fait normale et personne faisait de réflexion et personne n'aurait pensé même à faire une réflexion des femmes voilées à la caisse par exemple.
C'est vrai.
Il y a un respect de l'individualité que tu retrouves pas ailleurs, où tu vois, voilà, bah il y a des gens, voilà, il y a des gens qui sont hindous, qui ont des signes physiques de leur religion et tout machin, et bah ils sont là, ils font leur truc, tu vois. Et ça, pareil, c'est très américain.
C'est vrai. Il y a un aspect un peu communautaire et tout le monde se mélange pas forcément, mais tout le monde a le droit d'habiter au même endroit. Et si ça te plaît pas, tu leur parles pas, mais ça, ouais. C'est pas du tout un débat en fait. C'est pas un débat comme chez nous où il y a certaines choses où on va passer des mois à dire comment est-ce qu'une personne doit vivre. C'est pas vraiment quelque chose qui se fait ici. Et bon, revenons un petit peu sur cette expérience de Los Angeles. Est-ce que tu devrais y vivre toi un jour?
Ouais, totalement. Totalement. En vrai, surtout aujourd'hui, moi, je suis en train de configurer ma vie pour pouvoir partir vivre à l'étranger, ce qui n'est pas le cas avant parce que j'avais des bureaux à Paris. Là, je suis en train de rendre mes bureaux.
Okay.
Voilà, tout va très bien. C'est juste que j'ai envie de cette vie plus décentralisée. Voilà, j'ai tous les gens qui travaillent avec moi sont travaillent maintenant remote. On est une boîte qui est remote only.
Okay.
Ça se passe bien, donc je suis content. Et oui, je m'y voyais vivre. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu bouges aux États-Unis et surtout quand tu as des responsabilités, c'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui travaillent pour moi, c'est compliqué, tu vois. C'est qu'en fait, tu as un coût de la vie qui est gigantesque par rapport à ce que tu gagnes en tant qu'entrepreneur, même français, tu vois. Même en tant qu'entrepreneur, c'est pas qu'en tant que salarié. Et tu as le même niveau d'imposition aux États-Unis. Clairement, si je vais aux États-Unis, c'est pas pour les impôts. Parce que
non.
Je peux vous dire que j'ai encore fait le point avec un comptable très récemment sur est-ce que je peux bouger là-bas, comment et tout. Honnêtement, le niveau d'imposition est pareil. Il y a aucun avantage fiscal à ce déménagement. Et donc, en fait, je me retrouverai dans une situation où je paye des impôts au même niveau qu'en France. Et en plus, j'ai un coût de la vie qui fait x3.
Ouais.
Donc, il faut que je calcule bien mon truc. Mais oui, je me vois totalement y vivre. C'est juste qu'il faut que je fasse les choses intelligemment. Mais oui.
Et en dehors de ce dont on a parlé, est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça qui te manquent actuellement aux États-Unis ou qui te donnent envie justement de partir là-bas?
Honnêtement, la capacité de tester un truc en deux spies et on s'en bat les couilles.
Ouais.
Pour le dire comme ça. C'est-à-dire que tu vois, si j'ai une idée de produit, demain je veux lancer, je te dis n'importe quoi. Demain je veux lancer une sauce piquante. Franchement, je vais trouver un supplier, quelqu'un qui sait déjà faire ça, qui a une usine, qui a machin, qui est déjà FDA approved, bam, 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 et franchement, mon produit, il sort dans un mois.
Je vois.
En France, déjà, je viens pas du milieu de l'agroalimentaire. Il faut trouver quelqu'un qui a des trucs dans le milieu. Il faut trouver machin truc. Il faut bidule. Il faut avoir les approbations. Ah, ma boîte, ma société française, elle a pas, c'est pas écrit dans les statuts que je fais de l'alimentaire. Donc, il faut que je change les statuts de la boîte ou que j'en crée une autre. Ça prend du temps. Ça coûte de l'argent. Ça machin truc. Nanana. Putain, la lenteur, pas que administrative, mais la lenteur de vie. Tu vois, tout est compliqué. Tout est complexe.
Ouais.
Tout est dur. Tout est compliqué. Tout est une bataille. Et c'est très dur de lancer un petit truc à petite échelle pour tester. T'es tout de suite obligé de partir dans des gros bordels, tu vois. Donc ça me manque beaucoup. La bonhomie américaine me manque beaucoup. Tu vois, tout ce qu'on dit depuis le début, tu vois, leur façon de voir la vie et tout me manque énormément. Plein de trucs comme ça. Et puis non, faut être honnête aussi, la nourriture mexicaine, hein, la bouffe. Hein.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on bouffe bien en France quand même et tout. Alors je t'avoue, peut-être être le seul à te dire ça, mais en tant que vegan, la meilleure nourriture du monde, c'est Los Angeles. Hein. C'est imbattable.
Mais justement, j'allais t'en parler. Parce que quand on parle de bouffe aux États-Unis, on pense toujours qu'à McDo, en fait. Alors qu'évidemment, c'est pas du tout la gastronomie américaine. En tant que vegan, c'est quoi la bouffe que tu. C'est quoi la. Comment tu décris la bouffe américaine?
Bah, déjà, c'est plein de fruits et légumes pas chers. Parce que t'as le Mexique qui est à côté et il y a quand même plein de soleil. Donc t'as des oranges super, des avocats super à 1$. Donc t'as quand même plein de fruits et légumes, plein de produits, tu vois, de produits bruts qui sont pas très chers. Tu vois, je crois que j'ai ma carte en plus encore dans mon, ouais. dans mon portefeuille, mais j'ai ma carte du supermarché Ralph, tu vois, où j'allais tout le temps. Et tu vois, tu vas à Ralph, t'as des trucs, ça coûte vraiment pas cher du tout. Sur les trucs vegan, après, si tu veux prendre les trucs ultra transformés et tout, parce que bah, ça fait plaisir quand même de prendre des trucs bien industriels, bien crades, il y a plein d'options. Et surtout, ils ont pas de conservatisme dans les marques. C'est-à-dire qu'une marque qui fait des trucs pas vegan depuis des années peut faire une version vegan de son produit et tout le monde s'en fout, en fait.
Ouais.
Tu vois. Donc, tu vois, tu vas avoir des sauces, des machins, des trucs invraisemblables que tu trouverais jamais en France. Et puis t'as aussi plein d'eux, et ça c'est aussi l'avantage des États-Unis qui, comme tu disais, il y a beaucoup de communautés qui sont entre elles. Moi je me suis jamais senti pas le bienvenu personnellement, même dans les quartiers latinos, etc. Je me suis jamais senti pas le bienvenu ou voilà, juste bah c'est des quartiers où ils sont c'est très communautaire, mais tu peux quand même t'y balader, venir consommer des trucs dans leur restaurant et tout, et forcément bah t'as toute la culture de ces pays-là qui est formidable et vraiment un de mes meilleurs spots de nourriture de Los Angeles, pour te dire. C'est un endroit qui est ouvert que de 18h à 3h du matin.
Ok.
Et c'est un petit stand de tacos qui est tenu par une grand-mère, ça fait plusieurs années que je la vois, qui est juste à Hunter Street dans le downtown de Los Angeles vers le studio de Corridor. Et elle est là, elle vend ses tacos dans la rue, tu vois, c'est absolument merveilleux. Évidemment, la meuf, elle parle pas un mot d'anglais, donc t'es là avec Google Translate en espagnol et tout machin, ouais. Tu vois. Mais c'est génial, c'est super, tu vois. Elle est là dans la rue, elle vend ses trucs, c'est formidable. Il y a toujours une file d'attente monstre parce que tout le monde sait qu'elle est là et tout le monde, elle a sa réputation, tu vois. Et c'est insane, quoi. Et ça, c'est des expériences de ouf. Et pareil, tu vois, c'est pas un truc que tu verrais à Paris, tu vois.
Ouais.
Quelqu'un qui a son business officiellement dans la rue, comme tu aurais un stand de hot dog à New York et tout, ça n'existe pas. Ou alors, c'est des trucs sous le manteau, tu vois.
Non, c'est clair.
Mais voilà.
Et justement, après toutes ces années à Los Angeles, ça serait quoi tes petites recommandations pour quelqu'un qui connaît pas trop la ville ?
Le premier truc à faire absolument, c'est d'aller en fin de journée aux alentours de 16h30 ou 17h selon les périodes de l'année, d'aller faire la hike à Griffith Park.
Mm.
Donc Griffith Park, c'est le parc sur lequel il y a le panneau Hollywood. Et en fait, tu as toute une trail de randonnée. Les Américains font beaucoup de randonnées à Los Angeles, ça va. C'est vraiment un truc, genre si tu veux voir tes potes, soit tu vas dans un bar te poser, ou soit tu vas chez eux, soit vous allez faire une randonnée, tu vois. Mm. Genre ça se fait beaucoup, tu vois. Tu vas taper une heure et demie de randonnée sur tout le parc de Griffith. Tu as une vue absolument incroyable sur tout downtown LA. C'est absolument somptueux et surtout c'est gratuit. C'est un parc, donc tu vois, ça coûte que dalle et c'est un des endroits les plus magnifiques. Tu peux, avec la ligne bleue du métro, aller jusqu'à Santa Monica, qui est desservie par le métro. Santa Monica, t'as la plage qui est pareil, est magnifique. Tu peux, t'as tout un petit bike trail aussi, où tu peux aller des deux côtés de la plage en vélo. Au total, ça prend 20 minutes, tu vois. Mm. Mais pareil, c'est sublime. À Santa Monica, t'as le skate park avec tout le monde qui fait du skate la nuit et tout, machin, nanan, qui est superbe aussi. T'as plein de trucs comme ça qui sont vraiment, vraiment très, très chouettes. Et niveau restaurant, une recommandation, pareil, c'est dans le Art District, c'est Wusterkösch.
Okay.
En allemand, je sais jamais comment ça se prononce, mais c'est un truc de hot dog où il y a tout et n'importe quoi. En fait, ils font des saucisses de tout. Il y a du vegan évidemment, mais ils font des saucisses de serpent, des saucisses de. Il y a tout. Ouais, il y a tout.
Okay.
C'est vraiment le paradis du hot dog et tu prends ça avec de la bière et t'as littéralement 30 saucisses possibles différentes. Quoi.
Mais justement, ça me fait penser à un truc. T'as parlé du métro pour aller à Santa Monica. Tu ouais. es une des rares personnes à adorer Los Angeles sans conduire.
Alors moi j'ai mon permis que depuis 2 ans et ça fait 10 ans que je vais là-bas, donc ouais. j'ai passé le plus clair de mon temps à ne pas conduire. Et très honnêtement oui, parce que alors la situation a un petit peu changé et j'espère que ça va s'améliorer, mais depuis le coronavirus, moi j'y suis allé après le Covid, la situation s'était beaucoup dégradée, il y avait quand même beaucoup de pauvreté, ça faut le dire, la ville a beaucoup chuté et il y a beaucoup de gens qui ont élu domicile dans le métro.
Okay.
Donc en termes de sécurité c'est devenu vraiment moyen, je sais pas comment c'est, je suis pas retourné cette année encore, j'y vais là en août,
okay.
donc je verrai. Mais le métro que je prenais sans aucun problème tout le temps, là, bon, il y a des endroits où ça devient un petit peu plus chaud quand même, parce que t'as des gens, malheureusement, on sait, hein, la crise des opioïdes aux États-Unis, il y a des gens qui sont sous crack, tu vois, dans le métro, qui ont élu domicile dedans, ils ont leur tente dans la rame de métro carrément, tu vois.
Ouais.
C'est devenu un délire, tu vois. Donc c'est un peu plus compliqué, mais le métro, en fait, tout le monde dit ouais, les transports en commun c'est nul et tout machin aux États-Unis. En vrai, le métro Los Angeles c'est pas mal. Il te permet de faire beaucoup de hotspots différents, tu vois, de trucs importants à voir, et tu peux toujours finir soit à vélo, soit en Uber.
Ouais.
Donc en gros, si t'as besoin d'aller à un endroit précis, tu vas au hotspot le plus proche avec le métro et tu finis avec 5-10 minutes de Uber ou 10-15 minutes de vélo, tu vois.
Ouais, je vois.
C'est pas la mort, franchement. Si jamais ça s'améliore, et j'espère que les gens qui sont actuellement à la rue n'y seront plus, parce que c'est vraiment terrible la situation là-bas là en ce moment. Ouais, effectivement, le métro est très pratique là-bas et surtout il est en pleine expansion. À chaque fois que j'y allais, il y avait des nouvelles stations tous les ans, tu vois.
Ouais, je vois.
Il y a un gros investissement sur le métro de Los Angeles.
Donc toi, c'est vraiment la ville de Los Angeles et pas forcément le sud de Californie qui t'attire. C'est vraiment dans la ville elle-même.
Ouais, c'est la ville elle-même dont je suis tombé complètement amoureux et surtout que je connais très très bien. En fait, il y a aussi ça, c'est-à-dire que je dis pas que je serais pas heureux ailleurs non plus, tu vois. Mais il se trouve que moi, mon expérience, c'est celle-là. Le reste, je le connais pas.
Mmh.
Donc voilà, moi, je connais très très bien Los Angeles. J'ai parcouru un petit peu les États-Unis. J'ai fait Texas et New York aussi.
Ouais.
Mais c'est pas la même vibe, tu vois. C'est pas pareil.
C'était comment ton voyage au Texas ?
C'est spécial. Hein.
Ouais.
très 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 spécial. Le Texas, j'y suis allé pareil parce que j'avais une amie en fait qui habitait là-bas et que j'ai rencontré à Los Angeles, qui habitait avec son mari là-bas et qui m'a dit ah bah ton prochain voyage passe une semaine au Texas avant d'aller à LA, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé les voir. Ils habitaient à Houston.
Ouais.
Donc je suis allé à Houston. Houston, donc moi j'étais jeune encore, j'avais pas de voiture, pas de permis, donc autant te dire que je ne faisais rien en fait, c'est-à-dire que je sortais avec eux et c'est tout.
Okay.
Parce que là, Houston sans voiture, autant te dire que c'est des routes, mais tu sais il y a pas de sidewalk en fait.
Ouais, je vois.
Il y a pas de trottoir. Donc en fait, soit tu roules quoi. Il y a pas de choix. Tu ne peux pas marcher, c'est impossible de marcher. Ça c'est vraiment délirant. Et surtout moi il y a des trucs où j'ai été un peu malade là-bas. Parce que je sais pas si c'est mes potes ou quoi, mais c'est extrêmement compliqué d'avoir des fruits et légumes frais.
Ok.
Pour sur une semaine à Houston, les seuls fruits et légumes que j'ai mangés, ils venaient de conserve. Tu vois. Donc c'est des habitudes alimentaires où là, par contre, j'avais vraiment vraiment du mal. Tu vois.
Ouais, je vois. Pourtant, c'est juste à côté du Mexique en plus.
Mais oui, en plus, ils ont pas d'excuses. Ils ont le Mexique à côté qui a des trucs super. Donc voilà. Bon, ça se trouve aussi, j'avais des potes qui étaient très américains. Mais
c'est possible.
C'est aussi possible. Hein. Mais je mets pas ça sur tous les Texans. Mais donc ouais, j'ai eu un peu du mal. Et je pense honnêtement que aujourd'hui, j'en ai un regard biaisé parce que j'avais pas de voiture. Je bouffais des trucs en conserve et tout. Donc honnêtement, c'est pas la meilleure expérience. Je suis persuadé qu'il y a des trucs très bien là-bas que j'ai pas vu. Tu vois. Donc je vais pas juger en mode ah c'était vraiment super nul et tout.
Ouais.
En vrai, voilà, je n'ai pas eu une expérience incroyable. Mais peut-être que je reviendrai. D'ailleurs, je retourne au Texas cette année parce qu'il y a un événement professionnel auquel je veux aller,
okay.
Qui est pas à Houston, qui est à Dallas. Donc, bah, j'aurai l'occasion de voir maintenant que j'ai le permis et que machin et tout, de voir un peu à quoi ça ressemble avec un regard peut-être un peu plus, tu vois, large, quoi.
Ouais. Je sais que t'as été souvent à Las Vegas aussi pour des salons, non?
Alors c'est fini maintenant. Ouf, mais ouais, pendant des années, j'ai fait les salons à Las Vegas parce que ça correspondait avec le contenu que je fais, mais j'ai changé un peu de type de contenu donc j'ai plus trop besoin d'y aller. J'aime pas du tout Las Vegas.
Ah ouais.
j'y suis allé. Bah Las Vegas, j'y allais parce que tous les salons professionnels étaient là-bas dans l'audiovisuel, le NAB etc. machin. Je vais pas cracher dessus, ça m'a beaucoup apporté, j'ai rencontré plein de gens grâce à ces salons parce que les Américains sont hyper accessibles. Et donc sur les salons, tu rencontres absolument tout le monde, tu vois. Typiquement, j'ai été invité à des soirées parce que je parlais à des gens sur le salon et tu rencontres la personne qui est en charge du développement du logiciel de montage After Effects chez Adobe, tu vois, par exemple.
Ouais, je vois.
Quand tu travailles dans cette industrie et que tu as accès à cette personne et qu'elle vient te parler, qu'elle est intéressée par ce que tu dis, qu'elle te parle pendant une demi-heure, tu vois. Enfin, c'est des gens qui sont très faciles à contacter, quoi. Donc, c'est super pour faire du réseau. Ça m'a beaucoup apporté. Je crache pas du tout dessus. Maintenant, Las Vegas, c'est vraiment... C'est des gens bourrés parce qu'ils ont des cocktails de 10 litres dans une botte en plastique à 2h de l'après-midi, quoi. Enfin, c'est sale. Et surtout, il y a une pauvreté qui rend pas heureux à voir. C'est-à-dire que tu vois des gens qui sont là et qui sont venus là alors qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent et qui claquent tout leur argent dans leur machine à sous une fois par an là-bas, tu vois. Et tu sais que ces gens-là n'ont pas l'argent pour perdre ton argent. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que
tu veux dire. Ça se voit, quoi. Et t'es là, genre, bon, c'est glauque un peu. Tu vois, c'est un peu glauque.
Est-ce que tu gardes des souvenirs marrants de ces salons où t'as dû voir plein de lancements de produits qui étaient le futur et qui finalement, on n'en a jamais entendu parler?
Oh, attends, faut que je me ressorte les vieux dos. oh là 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 là. Oui, il y a eu tout un tas de saloperies. Hein. Il y a eu tout un tas de saloperies. Bah, en fait, le truc qui a jamais pris et qui était quand même vachement drôle. Ok, j'ai deux trucs marrants, si tu veux.
Ouais.
Le premier, c'est que je me suis rendu compte à quel point les églises étaient des industries.
Ah, ça.
parce qu'en fait, sur les salons, donc là, je parle du NAB, qui est le plus gros salon des producteurs audiovisuels du monde, donc des gens qui font vraiment de la captation vidéo, du montage, etc., machin. Tu as des stands énormes de 100 mètres carrés pour la production pastorale. Vraiment des gens qui font de la production audiovisuelle dans des églises où il y a 16 caméras, un travelling, un machin. C'est vraiment genre Jésus, tu vois, genre en 4K. Tu vois, c'est
incroyable.
Ça, c'est un délire. Je n'aurais jamais imaginé que ça existait. Je n'avais pas foutu les pieds là-bas. Tu vois. Et c'est vraiment un gros, gros délire. Donc, il y a ça. Et dans les produits qui n'ont jamais percé, c'est toute la robotique. C'est toujours super drôle parce que tous les ans, ils sortent des nouveaux robots. Ça, c'est plus le CES qui est un salon de technologie généraliste, pas que la vidéo auquel j'allais aussi. Et tous les ans, c'est genre le nouveau robot machin. Et c'est un bipède, tu vois, qui parle. Et c'est des trucs qui existent depuis 10 ans et ça fait 10 ans que ça existe, 10 ans que ça perce pas, quoi.
Ouais, ça c'est ouf, ça me fait penser au, je sais pas si t'y étais encore à cette époque, mais il y avait celui qui était hyper réaliste il y a peut-être 2 ans, je crois.
Oui.
Avec ses, il pouvait tourner les yeux et tout, c'était assez ouf.
Oui, j'ai oublié le nom, mais j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, je crois. Mais c'est impressionnant parce que pour le coup, ils te répondaient et tout machin, mais juste soit c'est trop cher, soit ça, ils arrivent pas à le développer en masse. Il y a plein de trucs qui font que ça marche pas encore, quoi.
Ouais, je vois. Et à part ça, t'as visité d'autres endroits aux États-Unis qui t'ont plu?
New York, j'ai bien aimé, ouais. Mais c'est un truc très très comment dire. New York pour moi n'est pas une ville des États-Unis, tu vois.
C'est clair.
New York, c'est une ville qui appartient au monde entier en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment, tu vas avoir la communauté italienne, communauté sikh, communauté machin, et en fait, t'as différents morceaux du monde qui se retrouvent tous en mishmash assemblés à New York. Mmh. Ça rend pas le truc désagréable, c'est très plaisant. Je sais pas si je m'y verrais vivre, peut-être. Mais c'est en fait ce que je veux dire par là, c'est que tu t'es pas en mode ambiance très américaine machin et tout. C'est une ville qui est hors du temps et de l'espace en fait. Tu vois, pour moi,
c'est clair, c'est clair.
C'est autre chose en fait, tu vois.
Ouais. Mais je me rappelle que tu me disais que ça t'attirait pas trop parce que ça te faisait un peu trop penser à Paris. Et finalement, quand tu y as été, t'as été assez surpris de voir comment c'était.
Ouais. En fait, c'est un espèce de mishmash entre Paris et Londres. C'est vrai que c'est, en fait moi j'avais pas, quand je disais ça c'était avant d'y aller, j'étais en mode c'est pas que j'aime pas New York, j'ai pas un a priori négatif, mais ça ne m'attire pas particulièrement,
ouais.
Et quand j'y suis allé, bah tu retrouves ce côté très sympa où effectivement t'as plein de communautés différentes, plein de gens différents, super intéressants. Mais c'est vrai que c'est une ambiance, bah faut aimer, tu vois, faut aimer parce que c'est pas forcément ce que tu attends des États-Unis. C'est pas les États-Unis, c'est le monde entier qui s'est retrouvé à cet endroit du monde.
Ouais.
Et en fait, tout, il y a tout et rien en même temps, en fait, tu vois. Ouais. Ça qui est très compliqué à définir.
Tu m'avais promis des anecdotes de zinzin sur tes voyages aux États-Unis. Est-ce que t'en as une comme ça que t'aimerais bien me raconter?
Bah franchement, moi le truc qui m'a marqué, mais du coup je l'ai raconté un peu sans faire exprès au début, c'est vraiment genre. Je suis un petit français, je débarque de Son Père, de nulle part, je connais Son Père. On m'invite à un restaurant, je rencontre Ren. Ren me dit, putain, demain on a une galère, t'es dispo pour une vidéo? Oui, c'était The Order 1996, la vidéo, elle est encore en ligne sur leur chaîne et tu me vois en personnage secondaire.
Trop bien.
Et vraiment, je me retrouve à 5h du matin. Je me lève, on est à North Hollywood, je prends Uber pour aller à Downtown LA, à leur studio, pour tourner ce truc-là. C'était une grosse prod et tout machin avec plein de gens. Le driver Uber, je me souviens très bien, le driver Uber me dit t'es sûr que tu veux être déposé là, t'es sûr, hein, machin. On est en pleine nuit, on est à Downtown LA où il y a des tags de gangs partout, tu vois.
Wow.
Et moi je suis là genre ouais je sais, t'inquiète pas, je rejoins des gens, t'inquiète pas, machin. Mais le mec m'a prévenu 14 fois que attention, c'est chaud quand même, tu vois. Il me dépose et là je suis devant un hangar, vraiment là c'est ces moments là où c'est des moments où tu te dis mais c'est quoi cette vie, en fait, tu vois? Vraiment, genre, il est 5h30 du mat, t'es devant un hangar à Downtown LA, t'es le premier arrivé, et encore Son Père, et t'attends des gars, et tu te dis, OK, là, je suis en train de vivre un truc de ouf, tu vois. Là, ça, c'est une expérience qui va rester ancrée dans mon cerveau toute ma vie, et c'est le cas, quoi.
T'as joué des rencontres un peu inattendues, si on peut dire, un peu comme les personnages secondaires dans GTA qui te marquent?
Ouais, la première fois que j'ai rencontré Freddie Wong.
Ouais.
La première fois que j'ai rencontré Freddie Wong, au final, on a fini par parler, à bien s'entendre, et il a même fait une vidéo avec moi sur ma chaîne.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment, il y a aussi pareil, tu vois, anecdote de fou. Le mec qui était mon idole d'adolescent, j'ai fait une vidéo avec lui, et maintenant on se parle, c'est délirant quand même, tu vois.
Ouais.
À l'autre bout du monde, quoi. Mais la première fois que j'ai rencontré Freddie Wong, pareil, j'ai eu ce côté un peu starstruck, tu vois, où je me dis genre, putain, mais c'est lui, tu vois. T'es obligé de faire un peu le fan, quoi. C'était une des fois où j'étais chez Corridor. Je passe faire un coucou au gars et tout, on va aller déjeuner ou je sais pas quoi, je passe pour le déjeuner, tu vois. Et là, sur le canapé, t'as Freddy qui est sur son téléphone en train de faire des blagues et de raconter des idées, des histoires de vidéos et tout machin au gars. Et là, je rentre dans le studio, tu vois, ils sont là tous les trois, je vois Freddy et je suis là genre, OK, je suis là, c'est réel. Tu vois, genre, c'est, en fait, c'est une espèce de scène de vie qui pour eux ne voulait rien dire. Ils étaient juste au bureau en train de parler d'idées de vidéos. Genre moi, tu vois, aujourd'hui, si quelqu'un, tu vois, me disait ça de moi, je serais là, genre bah oui, je suis au bureau, tu vois. Genre, mais pour moi, c'était vraiment genre putain, j'ai réussi à être dans l'univers que j'ai toujours absolument adoré, tu vois. Genre, c'était exceptionnel.
Et toi, qui as évolué à la fois dans le YouTube français et le YouTube américain, est-ce qu'il y a des grosses différences sur ce côté-là, sur à quel point les grosses stars sont accessibles, par exemple, ou ce genre de choses?
Sur l'accessibilité, je sais pas trop te dire, parce que moi, je fais aussi beaucoup les trucs dans mon coin, tu vois, ouais. Pour être honnête, aujourd'hui. Bon, je sais que je suis relativement accessible, par exemple, honnêtement.
Tu vois.
Mais par contre, sur la façon de faire des vidéos, en fait, les Américains ont beaucoup plus ce côté chaud. Tu vois, en France, on se dit ah, je fais de la vulgarisation, ou alors je fais ça ou ça, du gaming, j'essaie d'avoir des machins. Enfin, il y a un côté très, on se prend au sérieux très vite, tu vois. Pas que les Américains ne savent pas faire des trucs sérieux, mais eux, ils ont conscience qu'ils font du show, en fait. Mm. Ils ont ce showmanship de dire, voilà, on allume la caméra, salut les gars, aujourd'hui, machin, nan, 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 tu vois. Et ça veut pas dire qu'ils sont fake, ça veut dire que bah, c'est ça, ils sont là pour ça, en fait, pour faire le show, pour être allumés, pour être machin, pour. Il y a un côté très Broadway, tu vois. Ça, c'est une grosse différence, ouais, avec le YouTube FR. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que MrBeast est autant critiqué en France.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas l'habitude de gens pareils, tu vois. Pour nous, c'est bizarre, c'est cringe, limite. Tu vois.
Et ça revient un peu sur le côté un peu anti-américain dont je parlais tout à l'heure. Toi, j'ai l'impression que tu fais partie des rares à t'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui et qui est-ce qui t'inspire, que ce soit dans le contenu ou la stratégie?
Je vais te citer une toute petite chaîne là, mais c'est vraiment un truc que j'adore. C'est un mec qui s'appelle Junion. J-U-N-I-O-N. Okay. Et Junion, en fait, il raconte des histoires de hacks qui se sont passées. Alors, c'est très informatique. Hein. Mm. Et il raconte des histoires de hacks qui sont passées autour de la crypto-monnaie. Donc, en mode, le hacker a volé tant, il est passé par ça. Et en fait, il fait tout en motion design. Okay. Donc, c'est très, très bien fait. C'est très joli. Le storytelling est très bon. Et Junion, tu vois, il doit avoir 6000 abonnés. Mais c'est un gars que je trouve vraiment très, 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 très fort. Et après, non, en vrai, dans le scaling, celui qui m'a énormément inspiré, même s'il n'est pas américain, il est canadien. Enfin bon, c'est le même moule. Hein, tu sais, ouais. C'est les Américains et les Canadiens, c'est deux crêpes qui sortent du même moule.
Ouais.
C'est Linus Tech Tips, la plus grosse chaîne de tech au monde. Le mec, il a 200 employés. Et vraiment, voir un tel niveau de scaling de la part d'une chaîne YouTube, c'est extrêmement inspirant, je pense.
Et surtout, j'ai l'impression que là-bas, il le montre. Là où en France, on a des youtubeurs qui en fait sont des grosses boîtes, mais ils donnent toujours l'impression d'être tout seuls, alors qu'en fait pas du tout. J'ai l'impression que là-bas, ils sont beaucoup plus transparents à ce sujet-là.
Parce que la France a une attirance sexuelle pour l'artisanat.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment, c'est limite un kink. C'est vraiment genre, oh, regardez, je suis tout petit, je suis si mignon, je suis tout petit. Mmh. Regardez, et pourtant, je fais des grandes choses. Alors, ouais. Je me moque, c'est pas méchant, mais il y a une attirance pour le public francophone pour ça. Les gens demandent ça.
Ouais.
Et sinon, ça fait trop gros industriel. On n'aime pas,
ouais.
Tu vois. Mais c'est tous les paradoxes, tu vois. Et pour autant, McDonald's, l'un de leurs meilleurs pays, c'est la France, tu vois.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou.
C'est la France et ses paradoxes, tout comme les US ont leurs paradoxes aussi, quoi.
Et pour revenir un petit peu sur les voyages, ce serait quoi ta pire galère que tu as eue, que tu pourrais raconter?
Ah bah, je peux t'en raconter une. Est-ce que tu connais la Société Générale?
Bien sûr. Je bon, sais où tu veux venir.
Voilà, la Société Générale est une banque. Et il se trouve que cette banque, bon, aujourd'hui ça va mieux, mais il y a 12 ans de ça, disons que quand tu apparaissais à Paris Charles de Gaulle et que tu réapparaissais 10 heures plus tard à Los Angeles, California of the United States of America, tous les voyants étaient... Alors, tu pouvais avoir prévenu ton conseiller bancaire, tout ce que tu voulais. Tous les voyants étaient au rouge. En eux, c'était en mode, oui, attention, cet homme a acheté un burger à McDonald's pour $6. C'est sûrement une fraude. Et je me retrouvais en fait, mais tous les ans au début, avec ma carte bloquée. Et ça prenait un temps fou à faire débloquer. Il fallait que j'appelle au milieu de la nuit en mode, les gars, c'est moi. Vous inquiétez pas, je sais que j'ai pris un supplément mayonnaise, mais je vous assure, c'est pas une fraude. Et voilà, la grosse, grosse galère, c'est les putains de cartes bleues. Et parfois, ça prenait plusieurs jours à réussir à débloquer la situation. Donc, tu te retrouves comme un galérien. Tu vois, j'étais obligé d'essayer de choper des dollars en cash en France avant de partir pour être sûr d'avoir du cash de côté au cas où ça arrive et tout. Vraiment, les blocages de cartes bleues, ça a été un cauchemar.
Ouais. Et à l'inverse, un souvenir que tu as partagé, un de tes plus beaux souvenirs là-bas?
Bah franchement, c'est ce que je viens de te dire, hein. Je suis désolé, je me répète, hein, mais c'est vraiment t'arrives et t'as les gars que t'admires énormément qui sont en train de pousser vraiment, qui sont les Américains ont une expression pour ça, ils sont at the tip of the iceberg, tu vois. Uh-huh. Ils sont en train de pousser push the envelope de l'industrie que t'adores et dans laquelle tu veux faire partie, et ils sont tous là en train juste de vivre leur vie normale, et toi t'es là genre waouh, putain, c'est donc ça, tu vois.
Trop bien. Et voilà. Du coup, tu y retournes bientôt, au mois d'août. C'est quoi le premier truc que tu veux faire là-bas?
Bah écoute, je serai au Texas, donc je ne sais pas du tout.
Ah bah oui, du coup.
Je pense que comme je serai au Texas, ouais, comme je serai à Dallas, j'aurai une petite surprise. Je pense que le premier truc que j'ai envie de faire, vraiment, c'est, tu vois, t'arrives le premier jour, tu te poses un peu, t'es un peu en galère avec le changement d'heure et tout machin. Le meilleur truc à faire, je trouve, dans un pays étranger ou dans une ville étrangère ou que tu connais pas, c'est tu vas dans un bar où des gens normaux vont. Mmh. Tu vois, tu regardes sur Instagram si c'est un bar à touristes ou un truc normal et tu te poses, tu vois, tu prends une bière tranquille avec des copains si tu voyages à plusieurs ou même tout seul. Tu essaies de parler à des gens si tu veux pas, c'est pas grave et juste observe la vie de gens normaux.
Je vois, trop bien.
Ça, c'est un truc que j'adore faire, tu vois.
Ouais, trop bien. Bah merci beaucoup. Hardisk, C'était trop
merci
cool.
Beaucoup à toi.
Est-ce que tu pourrais me conseiller un son? C'est, en général, c'est comme ça que je termine le podcast, qui te fait penser à Los Angeles, ou soit parce que c'est associé à un souvenir, soit parce que tout de suite ça te fait penser à la ville.
Une musique, écoute, la musique du générique d'intro de GTA V.
Ah, trop bien.
C'est un classique.
Évidemment. Ça va se terminer comme ça. Merci beaucoup.
Merci à toi. Salut.
C'était super. Salut.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le noter et laisser un commentaire, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez bien sûr suivre Hardy sur les réseaux sociaux et le retrouver sur sa chaîne YouTube pour voir toutes ses vidéos. Les liens sont dans la description. Vous y trouverez aussi les liens de mes réseaux sociaux et de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour continuer ce voyage aux États-Unis. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt.